Donc, je vais vous présenter un petit peu notre orateur d'aujourd'hui. Donc, Franck Gascoin est actuellement au CRISMAT de Caen, qui est un célèbre laboratoire de chimie du solide et qui a cet intérêt de coupler chimie du solide et physique du solide dans le même lieu. Donc, depuis les techniques de préparation juste aux études de physique fondamentale sur les matériaux synthétisés. Donc, Franck Gascoin a rejoint le CRISMAT relativement récemment. Il a d'abord été, donc c'est un chimiste qui a été formé à la grande école de chimie du solide de Nantes, d'abord, où il a fait son DEA, c'est bien ça, donc c'était l'endroit où était Rouxel, il y a déjà longtemps. Et il est ensuite parti faire une thèse aux États-Unis à l'Université de Notre-Dame, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et ensuite, à l'issue de sa thèse, il a fait sa thèse portait sur les phases de Zintl, et il a fait ensuite un postdoctorat à Caltech, au Jet Propulsion Lab, donc qui est un haut lieu de la recherche sur la thermoélectricité, également là d'où provient Thierry Kaya, qui a fait le séminaire de la première séance. Il a fait donc cette thèse, ce postdoc, pardon, avec Jeff Snyder en particulier, Thierry Kaya aussi, je crois, à JPL, à Caltech. Ensuite, il a été recruté comme maître de conférence à l'Université de Montpellier, où il est resté 4 ans, je pense. Et ensuite, donc, il a rejoint le CRISMAT. Et il va nous parler aujourd'hui, de manière assez complémentaire au séminaire de la dernière fois, donc de composés intermétalliques avec une perspective de chimie du solide, à la fois les composés classiques utilisés dans les dispositifs et, on l'espère, les composés qui remplaceront cela dans un futur proche.
Merci Antoine, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation aussi. C'est avec plaisir que je suis ici et puis c'est, si j'ose dire, c'est aussi un honneur d'être dans cet endroit assez... assez particulier et unique. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler comme un chimiste que je suis, mais un chimiste qui a été obligé d'apprendre un peu de physique. Et puis, pour ajouter un petit complément d'introduction, effectivement, au CRISMAT, on va de la physique, à 2 Kelvin, jusqu'à l'étude des matériaux à 1000 Celsius. Et puis, aujourd'hui aussi, on va, surtout sur l'aspect thermoélectrique, jusqu'à la fabrication de dispositifs. Jusqu'à la fabrication de modules, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures en physique ou en chimie, mais si à la fin il n'y a pas d'objet que l'on puisse effectivement présenter avec peut-être aussi des rendements, des puissances, des delta T, bah c'est un petit peu plus compliqué à visualiser, en fait, à visualiser tout le travail qui est en amont. Donc aujourd'hui j'aurais pu vous parler de tous ces matériaux. Alors forcément en 45 minutes, une heure, ça ne va pas être possible. J'étais obligé de faire un petit choix, et puis j'ai mis ici, donc effectivement, ce que tu as dit, ça sera le cours de ce tirade dans quelques semaines. J'ai choisi d'abord, en concertation avec Antoine, donc effectivement, de parler des matériaux anciens, un tout petit peu, et puis je vais surtout les introduire, leur historique, mais surtout ce qu'on fait aujourd'hui sur ces matériaux, parce que, mine de rien, ce sont des matériaux qui sont connus depuis une cinquantaine d'années, surtout le bismuth de tellure. Mais aujourd'hui, on travaille toujours énormément sur ces matériaux. Et je vais vous faire voir les évolutions qu'ont subi ces matériaux en termes de propriétés thermoélectriques. Et puis, je vais aussi focaliser un petit peu de ce temps pour vous parler des recherches actuelles sur tout ce qui est composé lamellaire de type CDI2, intercalé ou non, des pseudo-holandites, des phases de Zintl. Et avec ça, je pense que j'aurais fait le tour de tout ce qui se passe à l'heure actuelle au laboratoire. Je ne vais pas parler des silicures sur lesquelles je travaille énormément aussi, par faute de temps et puis aussi par choix, parce que je ne peux pas trop vous en parler. Ici, j'ai mis des endroits en France où on travaille énormément aussi sur des composés très prometteurs, alors que ce soit les oxysélénures, donc ça, c'est plutôt pas loin d'ici, à Orsay, ou des clusters... Enfin, des composés à clusters de molybdène sélénium qui sont plus développés à l'Université de Rennes en collaboration avec l'École des mines de Nancy. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout ça, je vais vous parler donc une petite introduction, les matériaux anciens et puis surtout la transition entre ces matériaux anciens et puis ce qu'on en fait aujourd'hui avec des nouvelles techniques de synthèse, de procédés. Et vous allez voir que c'est C'est très important, le process dans tout ce qui est thermoélectricité. Le matériau a une histoire, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi la stratégie qu'on a pour découvrir des nouveaux systèmes, des nouveaux matériaux, avec des structures plus ou moins connues, des nouvelles structures, et pour voir un peu quelle est la stratégie quand on est devant la paillasse avec le tableau périodique en face de nous. Ok, aujourd'hui on fait quoi? Quels sont les matériaux, les systèmes qui vont être intéressants? Donc voilà, je vais essayer de vous faire passer ce message. Donc, très rapidement, et ça, bon, je ne vais pas passer plus d'une minute là-dessus, juste pour vous dire que l'essentiel des recherches qui ont lieu aujourd'hui sont surtout, et concernent surtout la génération d'électricité qui utilise l'effet Seebeck. Il y a très peu, alors il y en a forcément, hein, mais il y a très peu de recherches sur les matériaux qui seraient susceptibles de remplacer le tellure de bismuth, parce qu'effectivement, comme l'a dit Antoine précédemment, et puis Thierry il y a une quinzaine de jours, il faudrait des ZT3 pour remplacer les frigos à condensateur. Bon, c'est pas simple, c'est pas facile, et vous allez voir que le bismuth de tellure est unique, et effectivement, il y a quelques raisons de rester un petit peu pessimiste quant à une solution de remplacement à ce tellure de bismuth. D'un point de vue d'un chimiste, quand on dit, tiens, on va faire des nouveaux matériaux thermoélectriques, ce dont on a besoin, c'est tout ça. Et je ne mets pas d'équation là-dessus, je me dis juste que, ok, quels sont les éléments, les structures, les composés que je vais pouvoir imaginer, fabriquer, synthétiser, tester, qui vont avoir à la fois un fort coefficient de Seebeck, parce que vous voulez de la puissance à la sortie. Vous voyez tout de suite que je parle tout de suite de production d'énergie électrique, hein, pas du tout de refroidissement. Je dois aussi limiter les pertes thermiques qui auraient lieu, ou qui ont lieu, parce qu'il y a de l'effet Joule dans votre système. Et puis à la fois, puisqu'on veut travailler avec des delta T, à la limite, le plus grand le delta T, le mieux, puisque vous allez maximiser l'efficacité de votre module, eh bien, il faut des matériaux qui soient susceptibles et qui ont la capacité de préserver ce delta T. Alors forcément, un bout de métal, ça ne va pas être possible, puisque ça va thermaliser aussitôt, il n'y aura pas de delta T. Essayez de faire un delta T sur un morceau de cuivre, vous allez voir que c'est assez compliqué. C'est pas possible. Donc tout de suite, et ça, c'est à la limite, ce sont les seules équations que vous allez voir sur mes transparents. Je sais ça, qu'est-ce que je fais? Je vois aussi que le Seebeck, la conductivité ou la résistivité, je parle plutôt de résistivité en général, et puis la contribution électronique de la conductivité thermique sont toutes des valeurs reliées par la concentration en porteur de charge. Donc là, je suis un petit peu coincé, et c'est le gros problème. Il y a beaucoup de systèmes dans lesquels vous pouvez augmenter le Seebeck, mais à la fois la résistivité va partir dans le mauvais sens, la thermique aussi. Et donc, à la fin, ce qu'on peut faire, c'est optimiser la concentration en porteur de charge, et puis travailler sur cette composante kappa R, qui est en fait la composante de réseau, c'est-à-dire la chaleur qui est transportée par le réseau, par les liaisons, dans la structure. Et ça, on peut. Et pour un chimiste, c'est sympathique parce que c'est à la limite le seul terme qui va dépendre un petit peu de la structure. Et les chimistes connaissent les structures. Donc ça nous intéresse franchement. Ça, vous l'avez déjà vu. C'est juste pour vous dire que, effectivement, comme point de départ d'une recherche en nouveaux matériaux, ça serait bien d'avoir des concentrations porteurs de charge qui ne soient pas trop éloignées de ces valeurs. Donc on est sur du 10 puissance 19, 10 puissance 18, 10 puissance 21 porteurs de charge par centimètre cube. C'est juste pour fixer les idées. Effectivement, moi, quand je vais trouver une nouvelle structure ou faire un nouveau matériau, c'est pas marqué dessus. La concentration porteur de charge, je ne peux pas la deviner. Hein, c'est un peu une évidence, mais il ne faut pas l'oublier. Bref, voilà où est... comment poser le problème. Et puis là, j'ai juste fait un petit slide d'histoire, très très rapide. 1823, le Seebeck, 1835, l'effet Peltier. Et puis, donc 1930, les premiers semi-conducteurs sont testés. On a des Seebecks qui sont beaucoup plus élevés que précédemment, puisque précédemment, on mesurait des Seebecks de métaux qui étaient très très faibles. Et puis, vous voyez que même en 1950, on avait des générateurs qui avaient des rendements de 5%. C'est pas mal. Puis là, j'ai un grand saut dans l'histoire. 1977, j'ai juste mis les RTG silicium germanium dont Thierry avait parlé. 1977, ça a été lancé, cette mission a été lancée. Donc forcément, vous voyez que ce sont des générateurs qui ont été développés dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, les missions, alors aujourd'hui et puis il y a quelques années, sont toujours, enfin, les missions qui utilisent des RTG, en tout cas, fonctionnent toujours avec ce vieux silicium-germanium que Thierry avait montré. Et effectivement, on est sur des rendements qui sont entre 5 et 8%, aujourd'hui encore. 2020, peut-être que les nouvelles générations de RTG utiliseront ces deux matériaux. Peut-être, c'est pas sûr, on n'est pas encore sur une phase... on n'est pas encore sur un concept qui est validé par la NASA, donc peut-être. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis un peu sceptique et frustré, j'ai envie de dire, pour un chimiste, les seuls modules commerciaux que vous pouvez acheter, vous allez en ligne, vous achetez des modules, vous allez acheter des modules qui sont fabriqués aux États-Unis, en Ukraine ou en Chine, sont fabriqués avec un type P et un type N qui sont basés sur une structure BI2TE3 dopée, donc type P et type N. Aujourd'hui seulement, vous pouvez acheter des modules comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Après des années de recherche, ce qui est vendu ne contient que du bismuth de tellure. Et vous voyez tout de suite que, alors déjà, le bismuth de tellure, c'est principalement pour des basses températures. Enfin, quand je dis basse température, je ne suis pas un physicien, donc basse température, c'est proche de l'ambiante. Attention, hein, je dois préciser. Mais vous voyez qu'on est très très frustré. Effectivement, le gros verrou aujourd'hui, c'est de pouvoir fournir aux industriels et aux gens qui ont des applications pour ces modules des matériaux qui ont des gammes d'utilisation qui sont différentes de celles du bismuth de tellure, qui est typiquement intéressant entre l'ambiante et une centaine de degrés Celsius. C'est à peu près tout. Il n'y a aucune autre solution aujourd'hui commerciale. Donc j'ai volé un transparent à Thierry parce que, effectivement, il avait ce transparent, et puis ce qui est aussi interpellant ici, c'est que les matériaux d'aujourd'hui ont été découverts dans les années 60. C'est lui qui a écrit ça, et c'est vrai. Je viens d'en parler pour le bismuth de tellure, je viens d'en parler pour le silicium germanium, pour les RTG, pour les applications autour de l'ambiante, et puis le PBT aux États-Unis qui est utilisé. Donc, vous voyez que dans les années 60, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 50 ans, il n'y a pas eu franchement d'évolution en termes de propositions de nouveaux systèmes, de nouveaux matériaux, de nouveaux dispositifs, autres qu'avec ces matériaux. Donc je vais vous parler de ces anciens matériaux très rapidement, et puis après on va switcher sur tout ce qui se fait actuellement sur ces matériaux et sur les autres matériaux. Donc BI2TO3 en termes de structure, alors ce qui est important, c'est pas forcément cette image, c'est plus cette photo ici, vous voyez très bien une structure lamellaire, donc des couches, et puis forcément, ça crée des plans de clivage, ce qui rend le matériau, en termes de propriétés mécaniques, relativement fragile, surtout si on considère des monocristaux. Et puis, forcément, si je mesure les propriétés dans les plans ou perpendiculairement au plan, il est bien évident que les propriétés de transport, thermique et électronique, ne vont pas être les mêmes. Donc, on a une forte anisotropie des propriétés de transport. Il ne faut pas l'oublier, surtout quand on fabrique ce matériau et quand on va mesurer ses propriétés de transport. Le bismuth de tellure, vous pouvez le faire de type P ou de type N en fonction des substitutions que vous y apportez. Donc le type P, typiquement, vous remplacez un petit peu de bismuth par de l'antimoine, vous tombez sur une composition comme ça. Le type N, c'est un peu l'inverse, vous allez échanger du tellure pour du sélénium. C'est relativement simple, c'est facile. En plus, comme on l'a dit précédemment, c'est relativement pratique d'avoir deux types de matériaux, un type P et un type N, qui sont issus de la même famille, parce que vous avez des propriétés thermiques, physiques, qui sont semblables, et donc c'est plus facile de fabriquer un module, un device qui va fonctionner avec deux matériaux du même type. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce BI2TO3. Alors, je vais juste vous montrer que l'anisotropie, ce n'est pas anodin, c'est un exemple que j'ai pris sur des monocristaux, donc forcément l'anisotropie là, elle est maximale. Le CIBEC, lui, c'est sympathique, il est isotrope, donc on le mesure dans un sens ou dans un autre, donc perpendiculairement au plan ou dans les plans, il est relativement isotrope. Ça, c'est intéressant et c'est utile pour nous parce qu'au moins sur la mesure, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, quand vous allez mesurer la résistivité électrique ou la conductivité thermique, vous voyez qu'il y a une grosse différence. C'est un peu évident, quand vous voyez la structure, que la chaleur va avoir beaucoup plus de mal à être transportée dans ce sens que dans les plans. C'est un peu comme le graphite, c'est à peu près la même image que j'en donne. Mais à la fin, ce dont il faut se souvenir, c'est que La figure de mérite, ici, c'est du Z, hein, c'est pas du ZT. Donc à 300K, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre ce que vous mesurez le long de la direction C, donc perpendiculairement au plan, ou dans les plans. Donc ça, c'est vraiment pas anodin. Et encore aujourd'hui, il y a des publications qui sortent, malheureusement, avec des gens qui mesurent la résistivité ici, très faible, c'est super, la thermique, très faible ici aussi, et ils vous sortent une ZT qui est formidable, sauf qu'ils ont combiné deux propriétés qui ne sont pas mesurées dans la même direction. Donc ça, encore aujourd'hui, il y a des erreurs comme ça. Mais à la limite, le Bi2T3, c'est un exemple. À chaque fois que vous allez avoir des composés anisotropes, il va falloir faire attention aux directions de mesure. Et c'est pas du tout anodin, parce que ça fait des erreurs à la fin qui sont quand même relativement énormes. Vous voyez la différence de ZT ici, c'est, j'ai envie de dire, un facteur 2 facile. Donc là, attention. Donc pour un chimiste, ce qui pose problème, c'est de savoir mesurer dans telle ou telle direction. Ça multiplie les contraintes, ça multiplie les temps de mesure, effectivement, et puis ça peut multiplier les problèmes. Un autre problème qui se pose avec cette anisotropie, c'est que quand vous allez fabriquer des modules, je répète que ces modules sont disponibles dans le commerce, il va falloir que le module soit fabriqué en utilisant le matériau dans sa meilleure direction, c'est-à-dire dans sa direction AB, du plan AB. Et donc, il va falloir orienter ses jambes thermoélectriques. Ça, c'est pas anodin, quand vous fabriquez quelque chose, il faut faire attention au sens. C'est pas simple, parce qu'un petit, j'ai envie de dire, un petit cube de métal, ça ressemble à quelque chose qui est très métallique, c'est pas marqué dessus la direction sur laquelle il faut vraiment appliquer les bonnes propriétés. Alors, ce qu'ils font, c'est forcément, on fait pas des cubes, on fait des parallélépipèdes rectangles, et puis on a une différence de... Enfin, on sait tout de suite comment les orienter. Aujourd'hui, les modules commerciaux, a priori, ont des ZT pour le matériau type P un petit peu supérieur à 1, et puis pour le matériau de type N, un petit peu inférieur à 1, dans le meilleur des cas. Alors, je n'ai pas les valeurs exactes, parce que ça, c'est un peu les secrets de fabrication, mais on est autour de ces valeurs. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui encore, si vous allez chercher toutes les publics qui sortent sur Bi2T3, il n'y en a jamais eu autant. Forcément, il y a encore énormément de choses à faire, a priori, sur ce matériau. Vous allez voir que moi aussi, je travaille dessus. Mais juste pour essayer de franchir le pas de ces ZT qui sont stagnantes et qui sont juste autour de 1. Juste deux slides sur le PBTE. Structure très simple, cubique face, du type NACL, donc cubique face centrée avec les sites octaédriques. N est de type P et de type N en fonction des dopants que vous utilisez. C'est facile à faire, que ce soit sous forme monocristalline ou polycristalline, pas de souci. Et pour fixer un peu les idées en termes de ZT, alors là, vous avez une variation de la ZT en fonction de la température, mais aussi en fonction de la concentration porteur de charge qui sont indiquées sur les graphes. On est autour de 1 à 800 Kelvin. Ça, c'est les composés PBT classiques de l'histoire. Forcément, le plomb en Europe est plutôt interdit. Donc, il y a très peu de recherches en fait en Europe sur le PBT. Par contre, il y a une grosse activité de recherche sur ce composé et ses dérivés aux États-Unis. Vous allez voir tout de suite que on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avec ce PBTE classique et vieux, entre guillemets. Et puis juste pour le silicium germanium, ce qu'a présenté Thierry, c'était effectivement toutes ces missions qui utilisent ces RTG avec ce silicium germanium qui est, j'ai envie de dire, relativement mauvais. Hein, on a des ZT en type P qui sont en pic, la meilleure ZT, donc à plus de 1000 degrés, c'est 0,6. Ça veut dire que le Z-bar, donc, qui est en fait la figure de mérite, mais moyenne sur l'intervalle de température qui est utilisé par l'application, le ZT moyen de ce module, de ces modules qui sont utilisés dans ces RTG, ce n'est que de 0,5 sur cette gamme de température. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je peux arriver devant vous en disant j'ai une ZT d'1,5, mais si cette ZT d'1,5 elle est à la plus haute température avec une pente qui est très forte, le ZT moyen ne sera pas de 1,5, forcément, il sera beaucoup plus faible et parfois, à la limite, moins intéressant que ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc maintenant, je vais vous faire voir ce qui a été fait sur ces matériaux depuis, une quarantaine d'années ou une trentaine d'années, un petit peu moins pour le silicium germanium. Et je vais discuter un peu des façons que nous avons aujourd'hui d'améliorer les performances des matériaux thermoélectriques qui sont déjà connus, donc le BI2TO3, le PBT, le SIG, et puis aussi de comment on fait pour trouver de nouveaux systèmes qui sont intéressants au point de vue propriété thermoélectrique. Alors je vais reprendre exactement le même ordre. Donc ces matériaux dont je viens de parler, BI2TO3, PBT, SIG, ils sont optimisés d'un point de vue chimique. On sait à peu près effectivement la formule, la formulation, la stoichiométrie qu'il faut leur donner pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc je ne vais pas aller changer la concentration au porteur de charge, je vais garder ce qu'on connaît, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, comme je le disais, est-ce qu'on ne peut pas aller s'amuser avec cette contribution phononique de la conductivité thermique? Donc ça, avec des nouvelles techniques, avec des nouveaux procédés, on va aller, j'ai envie de dire, un peu titiller ce terme. Et puis aussi, est-ce qu'on ne peut pas découpler le CIBEC de la résistivité électrique pour s'affranchir un peu de la relation linéaire qu'il y a, proportionnelle, j'ai envie de dire plutôt, entre le alpha et le rho, grâce à ces deux équations qui donc relient ces deux entités par la concentration au porteur de charge. Est-ce qu'on ne peut pas le faire par d'autres moyens? Donc, comment, premier point, s'amuser un peu avec la contribution phononique de la conductivité thermique? Bien, il va falloir s'amuser avec ces phonons, donc les perturber, augmenter leur diffusion, diminuer leur libre parcours moyen, c'est un peu la même chose que je dis. Mais comment on peut faire? Comment on peut faire quand on est chimiste et qu'on a devant nous le matériau et qu'est-ce qu'il va falloir lui faire subir? Alors, il va falloir introduire beaucoup de désordre. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est redondant dans ce qu'on essaye de faire, c'est ajouter du désordre. Beaucoup de collègues qui disent que les matériaux thermoélectriques sont des matériaux sales, pleins d'impuretés, plein de défauts, plein de lacunes, plein d'occupations mixtes. Bon. On va aussi essayer d'augmenter, il y a toute une théorie là-dessus, d'augmenter le nombre de joints de grains. Parce que plus vous avez de joints de grains, plus vous avez de possibilités pour perturber le déplacement de ces phonons. Alors, c'est peut-être un petit peu restrictif de dire qu'augmenter le nombre de joints de grains, c'est aussi diminuer la taille des grains, il faut faire attention. Et puis, vers du nano, effectivement, si vous avez un matériau qui est nanostructuré, à la limite, on ne pourra pas avoir plus de joints de grains que cela. Donc c'est aussi une idée. Et puis aussi, ces joints de grains, je vais vous en faire voir un petit exemple, comment est-ce que l'on peut perturber l'ordre au niveau de ces joints de grains? Donc ça, c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire, subtil, moins facile à faire. Maintenant, avec les techniques qu'on a, on peut aller voir ce qui se passe aux joints de grains, par exemple par microscopie électronique en transmission. Donc on voit effectivement la tête que ça a, un joint de grains. Et puis, aussi faire des composites, nano ou micro-composites, je veux dire, peu importe, je n'ai pas beaucoup parlé de nano, hein, c'est une extension en fait vers le nano, pourquoi pas. Donc, premier exemple que j'ai tiré en fait de tout le travail de Mercouri Canadzidis, que en fait on était voisins quand j'étais en thèse, lui il était toujours à Michigan State, donc on se voyait fréquemment, parce qu'on était tous les deux, enfin on était mon groupe et le sien, le groupe dans lequel j'étais et puis son groupe, on se côtoyait énormément, on était à 2 heures de route l'un de l'autre, donc on se voyait fréquemment. Et puis, lui a développé énormément de choses sur tous ces systèmes à base de PBT, mais avec des substitutions particulières. Et puis, Mercouri, c'est un très bon chimiste. Donc les très bons chimistes ont des idées parfois, j'ai envie de dire, très très simples. Effectivement, remplacer 2 plombs par un argent et un antimoine, au niveau électrique, ça ne va rien changer. Par contre, vous allez introduire du désordre. L'idée derrière tout ça est très, très 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 simple et utilisée tous les jours. Quand on fait une substitution, on regarde d'abord un peu ce qui va se passer au niveau électronique, après il y a la taille, après il y a la compatibilité chimique, j'ai envie de dire, ça c'est moins facile à quantifier. En tout cas, une substitution comme ça, sur le papier, ça a du sens. Ça se fait très bien. Donc il y a toute une série de composés qu'il a appelés les LAST, parce qu'ils sont composés d'antimoine, de plomb, d'argent et de tellure. Avec une formule comme ça, et vous voyez qu'à chaque fois que vous enlevez 2 plombs, vous ajoutez un argent et un antimoine. Et ce qui s'est en fait aperçu, c'est que cet argent et cet antimoine ont tendance à se regrouper par attraction coulombienne, autour forcément de tellure, hein, qui sont toujours les anions dans la structure. C'est très facile à faire. Et puis, si vous avez ça, bon, ça c'est une image d'un réseau tracé à la main. Par contre, quand vous regardez ça en microscopie, vous allez effectivement voir des zones très riches en argent et en et en antimoine. Et forcément, c'est ce qu'on recherche pour perturber ces phonons. C'était l'idée derrière tout ça, perturber ces phonons. Et quand vous allez extraire la composante donc, phononique de la conductivité thermique, vous voyez tout de suite qu'entre un PBTE classique et puis un PBTE qui a été dopé à l'argent, enfin substitué à l'argent et à l'antimoine, vous avez une diminution énorme de cette conductivité thermique de réseau. Et forcément, avec tout ce que ça implique sur, si tout le reste reste constant, forcément, sur le ZT. Et effectivement, c'est ce qu'on voit juste après. Alors, j'ai tiré ça de son très beau site, et puis bon, il y a tellement de publications qu'on à la limite, on ne sait pas trop laquelle choisir, mais c'est juste pour vous faire voir le ZT ancien, que je vous ai fait voir tout à l'heure, du PBT classique. Et aujourd'hui, effectivement, il annonce des ZT qui sont même au-delà de 2 sur certains de ces matériaux. Donc on a multiplié, j'ai envie de dire, par 2 le ZT, grâce à des substitutions, grâce à l'ajout de ces petites poches qui sont en fait du désordre, qui vont venir perturber la conductivité thermique de réseau. Alors, j'imagine que vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a des modules et des prototypes et des devices qui sont fabriqués avec ces matériaux? Aujourd'hui, j'en ai pas la connaissance. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques années quand même qu'ils travaillent sur ces systèmes. On peut se demander pourquoi ces matériaux ne sont pas utilisés aujourd'hui. Alors, j'ai pas de réponse. Par contre, à chaque fois qu'on va parler de désordre et qui engendre des espèces de nanodomaines qui sont un peu curieux ici et qui nous facilitent la vie en termes de propriétés, il faut peut-être penser à la stabilité dans le temps de ces matériaux, surtout quand on parle de dispositifs qui vont être utiles à des températures auxquelles la diffusion à l'intérieur de ces matériaux n'est pas négligeable, j'imagine. Donc peut-être que ces nanodomaines ne sont pas stables dans le temps, je ne sais pas, je n'ai pas d'évidence pour ça et je ne peux pas en dire plus. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne, enfin il n'y a aucun dispositif qui fonctionne avec ces nouveaux matériaux. Alors que sur le papier, bah, ça serait quand même pas mal. Hein. Donc, ça, c'était pour le PBT. Vous voyez qu'on a une ZT qui est doublée par rapport aux anciens PBT. Je vais vous parler de BI2TO3 aujourd'hui, ce qu'on en fait. On va essayer de profiter de cette anisotropie. Et on sait qu'on doit utiliser ce matériau avec ses propriétés mesurées dans le plan AB. Alors, ça nous, ce qu'il faut aussi dire pour un chimiste, faire des monocristaux, il n'y a rien de pire, c'est très lent. Et puis imaginez fabriquer des modules avec des monocristaux, alors j'en parle même pas, ça devient très compliqué, même infaisable. Et puis ces monocristaux, forcément je vous ai fait voir la structure, des plans de clivage, donc des propriétés mécaniques qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas les oublier, c'est très mauvais. Et donc ce qu'on fait, et aujourd'hui beaucoup de recherches sont axées sur cette synthèse d'échantillons polycristallins, on va donc fabriquer des poudres qu'on va venir densifier par pressage à chaud, conventionnel ou par SPS, peu importe, et on va essayer d'aligner ces grains, les aligner pour essayer de reproduire un petit peu ce qui se passe dans un monocristal. Et puis quand vous avez une presse qui est uniaxiale, vous avez une direction de pressage particulière, et donc on va voir, je vais vous faire voir qu'effectivement on arrive à aligner ces grains plus ou moins correctement, perpendiculairement à l'axe de pressage. Et puis, on va mesurer ses propriétés et voir un peu où on arrive. Donc, la synthèse qui est utilisée ici, c'est basée sur du broyage réactif, mechanical alloying, donc des broyeurs très, très énergétiques. C'est très rapide, c'est très facile à reproduire. Je peux vous faire 10 fois le même échantillon, il n'y a pas de problème. Des tailles de grains qui sont très petites à cause de la méthode de synthèse. C'est une synthèse basse température, on est juste dans des bols de broyage, c'est relativement simple. Donc il n'y a pas d'évaporation qui parfois pose problème quand même dans des systèmes où vous travaillez avec des chalcogènes, c'est pas très très facile. Je reviendrai là-dessus sur les sulfures, c'est encore pire forcément. Donc grâce à cela, vous avez un contrôle qui est très fin au niveau de la stoichiométrie. En plus, la synthèse étant une synthèse qui est, j'ai envie de dire, vous allez utiliser de l'énergie mécanique pour générer une réaction chimique, Et donc, cette technique facilite la formation de défauts. Et encore une fois, je vous dis tout à l'heure, les défauts, c'est bien, ça nous arrange. Et puis, ça, c'est plus pour mes amis industriels, c'est très facile d'en faire beaucoup. Hein, des attriteurs gros comme ça, pourquoi pas, ça existe. Donc moi, ce que j'utilise au labo, c'est des paramètres de synthèse qui sont ceux-là, très simplement, une trentaine de minutes, 700 tours minute dans un broyeur planétaire, tout ça pour fabriquer 15 grammes. Alors pourquoi 15 grammes? Parce que 15 grammes, c'est à peu près ce qu'il nous faut, enfin c'est exactement ce qu'il nous faut pour tout mesurer dans les deux directions. Voilà, donc ça fait un échantillon. C'est aussi pour vous faire voir aussi que, ça c'est aussi un point de conclusion, on ne travaille pas sur 50 mg, il faut vraiment des grosses quantités de matériaux pour pouvoir en mesurer les propriétés de transport à haute température, j'ai envie de dire précisément. Donc faire 15 grammes de n'importe quoi en chimie, parfois c'est quand même très compliqué. Parfois, dans des systèmes comme celui-ci, c'est relativement simple et on a cette chance. Donc voilà un peu le procédé qu'on met en œuvre pour essayer d'orienter ce matériau perpendiculairement à l'axe de pressage. Alors le matériau est très anisotrope, ça a tendance à cristalliser en formant des petites plaquettes, et donc ces petites plaquettes vont vouloir s'aligner perpendiculairement à l'axe de pressage. Sur le papier, c'est très simple. Encore une fois, j'ai envie de dire que tout ce que je dis sur le papier, c'est très simple. Après, il faut le faire. Il faut vérifier que ça va fonctionner. Donc l'idée de départ, c'est de prendre cette poudre qu'on a fabriquée par Mechanical Alloying, ici. Donc on a un tas de poudre, on ne peut rien en faire, forcément, il faut le densifier. On va le densifier très simplement, on sait le faire, c'est facile. On prend un moule de graphite, une presse à chaud, ici c'est de la SPS, peu importe. On va faire une pastille qui fait 15 mm de diamètre. On va extraire cette pastille de 15 mm, la réintroduire dans une matrice de pressage qui, cette fois, ne fait pas 15, mais 20. Donc vous avez de l'espace libre de chaque côté. Et puis réappliquer un cycle de pressage, donc température et pression, pour à la fin obtenir un objet qui ne fait plus 15, mais 20 mm de diamètre. Et donc vous avez utilisé en fait ce pressage à chaud, donc en température et en pression, pour faciliter, j'ai envie de dire, le flot de ces particules, enfin de ces grains qui sont plutôt de forme lamellaire, plate, des petites plaquettes, pour orienter le matériau, un petit peu. L'image est parfaite, hein, on l'a parfaitement orienté, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas, et heureusement. Donc maintenant, à nous voir si ça a fonctionné. Et donc, ça c'est juste un petit schéma, mais c'est juste pour faire voir que ce n'est pas anodin de mesurer les propriétés dans les deux directions de pressage, pardon, les deux directions de l'espace. Vous obtenez un cylindre, vous le découpez. Sur le papier, c'est facile, c'est encore une fois quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour être sûr de regarder l'échantillon dans le bon sens et de le mesurer aussi dans le bon sens. Il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Là, j'ai juste de la technique, mais c'est relativement important de le préciser. Et donc, en microscopie, quand vous regardez selon l'axe, j'ai envie de dire l'axe de pressage, ça, c'est après la première densification. Les grains sont tout petits, vous ne voyez pas franchement d'orientation. Tout est un peu désordonné. Bon, ben, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas du tout, à la limite, anisotrope. Par contre, après le deuxième pressage, donc dans cette fameuse pastille qui était comme ça au départ et qu'on a repressé dans un moule plus grand, on obtient deux choses. Vous voyez clairement ici les plaquettes, vous les regardez par-dessus. Donc les plaquettes sont beaucoup plus grosses et, j'ai envie de dire, beaucoup plus orientées. Donc ça, c'est peut-être l'image la moins facile à regarder puisque vous regardez selon l'axe C. Donc quand vous regardez dans l'autre direction, perpendiculairement à ces plans de la structure, ici, après le premier pressage, encore une fois, quelque chose qui est très, très... Il n'y a pas d'orientation préférentielle, hein, quasiment pas, enfin, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas du tout. Donc quand vous allez mesurer un truc comme ça, vous mesurez typiquement, vous moyennez les propriétés selon les deux directions. Par contre, ici, encore une fois, on retrouve des grains beaucoup plus gros et beaucoup plus aligné, perpendiculairement, encore une fois, à l'axe de pressage qui est ici. Donc maintenant, à nous de mesurer ça. Donc je vais vous faire voir, encore une fois, on va mesurer en tenant compte de cette direction, encore une fois. Je répète, mais c'est vraiment pas quelque chose de, j'ai envie de dire, de simple. Donc ici, en symbole plein, vous avez la résistivité dans les deux directions, donc dans le plan et selon l'axe C. Donc ici, quasiment pas de différence. Encore une fois, c'est logique parce que Bah, vu la tête des échantillons, vu la microstructure qu'on a vue, il n'y a pas franchement d'orientation, donc on s'attend à quelque chose qui va être plus ou moins isotrope. Il y a un petit peu d'anisotropie, mais ce n'est pas grand-chose. Par contre, quand vous passez à la mesure du deuxième échantillon, de l'échantillon qui a été repressé une deuxième fois, vous voyez clairement que la résistivité ici augmente énormément quand vous regardez selon la direction C, et que la résistivité dans le plan a diminué énormément ici. Comme on pouvait l'espérer en tout cas. Donc on n'est pas sur un monocristal, par contre on a un peu mimiqué effectivement cette anisotropie, cette orientation préférentielle des plaquettes. Donc voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, parce que vous imaginez bien que le nombre de mesures est quand même astronomique quand on commence à faire beaucoup d'échantillons, donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de regarder ce qui se passe dans les plans, puisque c'est dans les plans que les propriétés sont les meilleures. Donc là maintenant toutes les mesures sont faites dans le plan, AB, vous retrouvez ici le CIBEC, donc c'est rond ici, qui est quasi isotrope, comme on pouvait le prévoir. Et par contre, vous voyez cette résistivité, encore une fois, qui, comme sur le schéma précédent, enfin la figure précédente, diminue énormément après le deuxième pressage. Donc ça, c'est mesuré simultanément sur le même échantillon. Donc quand on voit ça, on espère avoir augmenté le ZT. Par contre, on est sûr que la contribution électronique qui est donnée par la loi de Wiedemann-Franz de la conductivité thermique va augmenter, elle, puisque j'ai diminué la résistivité électrique. Donc ça va augmenter, c'est sûr. Donc peut-être que à la fin, ça ne sert à rien et le ZT ne va pas être augmenté, parce que le CIBEC n'a pas changé, la résistivité a diminué, alors à nous de voir ce qui se passe sur la conductivité thermique. Or, on sait que, encore une fois, ce terme va augmenter. Bon. Je mesure la diffusivité, pardon, et donc j'en déduis la conductivité thermique totale de l'échantillon. Que ce soit donc, après le premier pressage ou le deuxième pressage, je n'ai pas de différence à l'erreur de mesure prête. Donc là, j'ai une résistivité qui décroît, un CIBEC qui est constant, puisqu'il est isotrope, et une conductivité thermique qui n'est pas modifiée. Donc forcément, sur le ZT, il y a une différence énorme, ici 50%, peu importe, donc on va passer d'un échantillon qui était à 0,60 quelque chose à quasiment 1, c'est un échantillon particulier, on l'a fait plusieurs fois, parce que quand j'ai vu ces données, j'ai fait non, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, et donc il faut le refaire. Donc on l'a fait, on l'a refait une fois, on l'a refait deux fois, on l'a refait 10 fois, ça marche 10 fois. Donc au bout de 10 fois, on commence à y croire, et on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, si la résistivité diminue, la contribution électronique de la conductivité thermique va augmenter, donc c'est le calcul que j'ai fait ici, et donc, si la conductivité totale est constante, ça veut donc dire que la contribution de réseau à la conductivité thermique a diminué, ce qui était encore plus curieux, d'où ma tête à ce moment-là, parce que y a deux choses. On s'y attend franchement pas, parce que le procédé utilise un deuxième cycle de pressage à chaud. Vous avez une croissance des grains qui est quand même facile à voir. Hein, on est sur la même échelle ici, on est à 2 microns. Ici, on a plutôt des grains qui sont autour du micron. Ici, on a plutôt des grains qui sont autour d'une dizaine, voire plus, de microns. Et donc, ça va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure. On va essayer d'augmenter le nombre de joints de grains, donc de diminuer la taille des grains pour diminuer la contribution de réseau de la conductivité thermique. Or, ici, j'ai des grains beaucoup plus gros et j'ai une contribution de réseau qui diminue. Ça n'a aucun sens. Ou alors, en tout cas, ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaye de faire. Donc là, il faut aller voir un petit peu plus loin. Alors, c'est ce qu'on est allé voir par microscopie électronique en transmission. Ça, c'est sur le premier échantillon, donc pressé une première fois, donc l'échantillon qui faisait 15 mm de diamètre. Vous voyez des joints de grains qui sont... Alors, forcément, j'ai choisi une des plus belles images, évidemment. Par contre, à chaque fois, on tombe sur des joints de grains qui sont à la limite trop propres. Hein, il y a quasiment une relation épitaxiale entre ces deux grains. Et donc, ça ne va pas perturber, franchement, le déplacement des phonons. Par contre, quand je passe sur le deuxième échantillon, je vois plutôt que de voir des choses qui sont très très propres, et très très, j'ai envie de dire, ponctuelles, des choses qui sont plutôt épaisses, de quelques nanomètres, 2, 3, 4 nanomètres, à la place de ces joints de grains. Donc, c'est une conclusion possible, il y en a peut-être d'autres. L'action mécanique qu'on a fait subir à ce deuxième échantillon. Lors de ce deuxième pressage, on a forcé les grains, j'ai envie de dire, à se déplacer les uns sur les autres, à glisser les uns sur les autres. On est venu détruire, en fait, ces joints de grains très très propres. On a remis de la pression là-dessus, de la température, et on est venu casser cet ordre sympathique qui était très joli, mais qui était, à la limite, pas intéressant pour nous en termes de conductivité thermique. Donc, c'est une conclusion que je peux faire quand je vois ça. Il y en a peut-être d'autres, encore une fois, par contre. C'est juste un procédé mécanique que j'ai appliqué et qui résulte, encore une fois, à un... la résistivité diminue, le Seebeck est isotrope, et la thermique, elle, est restée constante parce que la thermique de réseau a diminué énormément grâce à justement cette action de friction qui est engendrée par le second pressage. Donc voilà une technique, j'ai envie de dire nouvelle, qu'on a appliquée à ce BI2TE3 pour en améliorer les propriétés. Alors je peux tout de suite vous dire, je n'ai pas une ZT2 sur mes meilleurs échantillons, de toute façon je ne vous l'aurais pas dit, hein, mais c'est une des techniques qui est à l'heure actuelle assez intéressante sur des matériaux anisotropes. J'ai effectivement testé cette technique sur d'autres matériaux avec beaucoup moins de succès. Avant de passer à la partie nouveaux matériaux, petite chose sur le silicium germanium, qui est lui pas du tout anisotrope, qui est très isotrope, c'est une structure du type diamant forcément. Par contre, et c'est pour vous faire voir que le mechanical alloying, on le retrouve ici, préparé par cette technique, on vient diminuer la taille des grains, et il a été montré par plusieurs équipes, par cette équipe, mais aussi par les collègues du JPL, que le fait de diminuer drastiquement la taille des grains dans le silicium germanium a permis de réduire, ici c'est la conductivité thermique totale, énormément la conductivité thermique, encore une fois par un effet de nanostructuration. Donc vous allez introduire des nanoparticules de silicium germanium dans votre matrice qui n'est pas forcément toute nano, mais en tout cas vous avez créé beaucoup plus de défauts, beaucoup plus de taille de particules petites. Le Seebeck ne change pas, la résistivité, elle, ne change pas non plus. Par contre, la thermique, vous voyez, qu'elle a diminué énormément. Et donc au final, vous avez un matériau de type P ici, puisque c'est celui qui était le moins bon dans le silicium germanium, qui était à une ZT de 0,6 historiquement, qui passe à une ZT qui est quasiment de 1 maintenant. Donc les nouvelles RTG seront soit faites avec ça, soit avec les nouveaux matériaux dont Thierry vous avait parlé. Mais en tout cas, la question qui était aussi à se poser à ce niveau-là, c'est que le silicium germanium doit fonctionner à plus de 1000 degrés. Et donc encore une fois, la question de cette stabilité de nanostructure, est-ce que les grains ne vont pas recoalescer, regrossir? Est-ce qu'il y aura de la croissance cristalline à 1000 degrés? Ouais, enfin, instinctivement, vous allez vous dire, oui. Eh bien là, non. Puisque des études de vieillissement et de cyclage ont montré que ce matériau ne perd pas ses propriétés. Et donc il y a encore une fois un débat aujourd'hui sur le pourquoi de cette apparente stabilité de cette nanostructuration. Alors, il y a eu plusieurs idées d'avancer, mais en tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est qu'effectivement, cette simple, j'ai envie de dire très simple, méthode de synthèse, c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à refaire, vous donne des propriétés qui sont quasiment deux fois meilleures que ce qui existe et ce qui a été utilisé pour faire ces RTG qui ont fonctionné depuis des années dans les missions spatiales. Voilà quelques procédés, quelques techniques qui ont été appliquées à des vieux matériaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux sur le silicium germanium, sur le PBT, on est beaucoup mieux, sur le BI2TE3, pardon, on est quand même un petit peu mieux. Il y a eu des papiers qui sont sortis avec des ZT d'1,8, ça n'a jamais été reproduit, donc... Je dirais qu'il faut prendre ça avec des pincettes relativement longues. Mais en tout cas, il y a des procédés qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'époque, pour améliorer ses propriétés. Alors, j'ai repris encore une fois la conclusion de Thierry ici. Il m'a envoyé ses transparents, je lui ai piqué cette slide. Et donc, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous voyez que les techniques ont évolué, donc on va vers des matériaux qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Et donc ça, c'est plus pour la transition que je fais maintenant, c'est il faut développer des nouveaux matériaux, et j'ai envie de dire que, encore une fois, les marchés sont en attente, nous attendent, il y a ce qu'il faut, et il faut le faire. Et puis par contre, alors, ce que je n'ai pas pris en compte, c'est le coût de tout ça, il faut quand même proposer des solutions qui soient relativement sympathiques. Et puis encore une fois, ce ZT3, il ne faut pas l'oublier, on n'est toujours pas là. Donc, on a atteint la limite, j'ai envie de dire, avec ces vieux matériaux. Est-ce qu'on peut faire des nouveaux matériaux maintenant, et avec quelles idées derrière? Eh bien, encore une fois, c'est la question qu'on se pose tous les jours dans le labo. On a besoin de quoi pour faire des nouveaux matériaux thermoélectriques? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une thermique de réseau qui est relativement faible, donc des structures complexes, des éléments lourds, du désordre, donc je ne vais pas repasser là-dessus, un CBEC et une résistivité électrique que l'on peut ajuster, parce qu'il y a des systèmes où de toute façon vous ne pourrez pas doper, vous ne pouvez pas substituer parce que c'est trop rigide, donc ça c'est intéressant. Il faut avoir cette possibilité, parce qu'on forcément on ne va pas tomber sur la bonne concentration porteur de charge, naturellement, en tout cas, pas tout le temps. Donc il faut des structures, j'ai envie de dire, flexibles envers la substitution et le dopage. Des solutions solides, c'est en général très intéressant, parce que d'un côté ou de l'autre de la solution solide, vous avez des possibilités de systèmes très très intéressants au niveau thermoélectrique. Des squelettes relativement flexibles, encore une fois, vis-à-vis de ces substitutions. Des sites d'intercalation, des positions interstitielles, des ordres d'anticycle, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, ça c'est ce qu'on recherche. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a une obligation, c'est de pouvoir faire ce matériau de façon pure, dans des grandes quantités. Quand je dis grandes quantités, encore une fois, c'est quelques centimètres cubes. Alors ici, c'est un échantillon classique qu'on fait au labo. Là-dessus, sur une pastille qui fait 15 mm de diamètre, c'est le minimum dont on a besoin pour tout mesurer. Donc vous voyez tout de suite que ça représente quand même une difficulté en plus. On doit être capable de densifier, c'est pas anodin, on fabrique des poudres, et on va être obligé de les densifier parfaitement, et quand je dis parfaitement, tant que c'est pas au moins 95% de la densité théorique, c'est pas la peine d'aller mesurer les propriétés de transport, notamment les propriétés de transport thermique, parce que vous allez mesurer aussi la porosité, l'air, enfin tout ce que vous voulez, donc on pourra jamais conclure sur effectivement les vraies propriétés du matériau. Le matériau doit être mécaniquement robuste, ça doit se tenir. Il y a des très bons matériaux thermoélectriques, je prends l'exemple de ZN4SB3, un des meilleurs matériaux en termes de ZT. Par contre, mécaniquement, c'est vraiment quelque chose de très très mauvais, donc on ne peut pas en faire grand-chose. Idéalement, le matériau ne doit pas s'oxyder à l'air ni à l'humidité. Alors, vous voyez que tout ça, pour un chimiste, on accumule en fait les paramètres dont il faut tenir compte. Ça commence à être compliqué. Et puis, si je regarde un peu du côté application, on ne va pas aller travailler avec des éléments trop chers, pas trop toxiques, facilement disponibles. Alors ça dépend encore une fois de l'application que vous visez. Hein. Si vous allez faire des RTG pour la NASA, ils se fichent complètement du prix du matériau thermoélectrique, parce que derrière, il y a quand même quelques grammes de dioxyde de plutonium, donc le matériau thermoélectrique, de toute façon, il ne coûte rien. Mais bon, on ne travaille pas seulement pour des applications qui sont des niches. Et puis forcément, pour pouvoir vendre quelque chose, il faut qu'il y ait un rapport coût-efficacité, rendement, qui ne soit pas complètement fou. Donc, juste une petite histoire rapidement. Un matériau qu'on a découvert alors que j'étais à l'époque au JPL. C'est juste pour vous faire voir un peu le temps et l'énergie que ça a pu prendre. Donc, 14 partenaires qui sont ici. 2 ans, je ne vous parle même pas de budget, c'est dans les millions de dollars. Et à la fin, on est ressorti avec un matériau qui est ce composé ci, ce composé de Zintl dont vous avez entendu parler si vous étiez là à la présentation de Thierry, qui a une structure très complexe. Donc ça, encore une fois, un chimiste connaît les structures. Cette structure est connue depuis 1984. On n'a pas inventé une structure, mais par contre, quand vous voyez cette structure, on a tendance à dire que c'est relativement complexe. On a tendance à espérer une conductivité thermique qui va être faible. Et puis, au niveau électronique, si je prends un formalisme de Zintl pour calculer le nombre de charges portées par chaque entité cationique et anionique, eh bien, vous obtenez un trou supplémentaire par unité formulaire. Il y a 8 unités formulaires par maille. Vous calculez une concentration en porteur de charge qui tombe, donc en calculé sur du 10 puissance 21 trou par centimètre cube. Mesuré, on tombe à peu près sur cette valeur. Je vous avais parlé de la complexité, on est à une maille de plus de 6000 angstrom cubes, ça commence à faire pas mal, avec ce trimère ici, que vous voyez, ici, qui est en fait très désordonné, puisque l'atome du milieu ne sait pas quelle position choisir entre celle-ci et celle-ci. Et en fait, quand vous regardez les thermolipes solides, vous avez une espèce de banane ici qui correspond à l'antimoine du milieu, c'est très désordonné, et donc effectivement, tout ça, ça va dans le bon sens pour avoir une conductivité thermique très faible. Donc là, on est super content. On a un système qui marche, et effectivement, sur le papier, ça marche. Par contre, on ne pouvait pas effectivement deviner que le CIBEC, que la résistivité était quand même parfaitement où il fallait. Juste pour vous donner une petite idée, on cherche typiquement des matériaux avec des résistivités de quelques milliohms centimètres. C'est pour fixer un peu les choses. Les CIBEC doivent être au-dessus de 150, sont trop de, enfin, au moins pour être intéressant, c'est le cas ici. Par contre, la thermique qu'on espérait faible, alors elle est plus que faible, ce sont des milliwatts centimètres Kelvin, donc on est autour de 8. Et donc vous voyez que ça place ce matériau, puisque l'idée derrière ce programme, c'était de remplacer le silicium germanium de type P, qui était à 0,5-0,6. Là, ici, on est à plus de 1. Donc c'est un peu l'aboutissement de ce projet, où vous voyez que ça a pris quand même énormément de temps et d'argent pour un composé. Qui, en plus, quand on a découvert ça, on ne savait pas que ça serait stable, on ne savait pas qu'effectivement, aujourd'hui, et depuis 2000, je crois que c'était 2006, le JPL a continué à travailler dessus. Ils ont essayé de l'améliorer sans grand succès. Alors, il y a eu des substitutions de fait, du travail dessus. Bon, on n'a pas des ZT qui sont beaucoup plus élevés. En tout cas, c'est stable thermiquement, c'est stable dans le temps, il n'y a pas de problème. Donc, peut-être qu'en 2020, effectivement, et c'est ce que j'espère, on verra des RTG nouvelle génération avec ce matériau pour jambes de type P. Alors, juste un petit truc qui est assez intéressant, ce qu'on a fait aussi sur ce matériau, c'est qu'on a commencé à remplacer un petit peu de manganèse par du zinc. Mn2+, Zn2+, pas de problème. Le CIBEC, a priori, ne devrait pas être affecté, enfin, en tout cas la concentration porteur de charge. Par contre, ce que vous changez, c'est que vous passez d'un D5 à un D10. Et donc, vous diminuez la concentration de spin. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que la résistivité, quand vous commencez à ajouter du zinc, enfin, remplacer du manganèse par du zinc, diminue parce que vous diminuez cette concentration de spin, et donc ce désordre créé par ces spins, alors que le CIBEC, lui, ne voit pas ça, il s'en fiche, il est constant. Et donc, rien qu'en substituant un petit peu de manganèse par du zinc, jusqu'à à peu près X égale 0,7, donc ça fait quand même 70% de zinc, après on tombe dans un composé qui est beaucoup plus métallique, mais ça je ne vais pas en parler, c'est pas ce qui nous intéresse, on a des ZT forcément qui vont être augmentées. Alors l'effet sur la thermique est quasiment négligeable, parce que la thermique est déjà tellement faible qu'on ne peut pas espérer beaucoup l'améliorer. C'est juste pour vous faire voir un petit exemple d'utilisation de ces métaux de transition sur un système particulier. Donc, je ne vous fais pas voir la ZT, mais la ZT est augmentée de 10%, donc on passe de 1 à 1,1, ça tombe à peu près dans la barre d'erreur, mais en tout cas, sur la résistivité et le CIBEC, c'est assez parlant comme exemple, c'est assez drôle, c'est assez intéressant. Ça donne des idées pour d'autres systèmes, en tout cas. À chaque fois que j'aurai un composé au manganèse, peut-être que ce serait pas mal d'éliminer ce manganèse au profit de quelque chose qui sera beaucoup moins concentré en termes de spin. Bref, ça c'est l'histoire de ce composé. Je vais vous présenter maintenant ce qui se passe au labo à l'heure actuelle. J'ai vu tout à l'heure effectivement que... j'imagine que c'est le motto, c'est enseigner la recherche qui est en train de se faire, c'est ça. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Donc là, il y a des thésards et des postdocs qui travaillent là-dessus. Donc c'est vraiment actuel. Et donc je vais vous parler de métaux de transition, de quelques génures de métaux de transition. Que ce soit du type pseudo-hollandite ou sur un composé beaucoup plus, sur des composés beaucoup plus simples au niveau structure, type CDI2, type TIS2 par exemple, juste un composé lamellaire. Ce qui rejoint ces deux familles, c'est que ce sont deux familles de composés qui comportent énormément de possibilités de composition, de substitution, que ce soit sur le site du métal de transition ou sur le site de l'anion. On a deux réseaux très distincts, vous allez voir. On a des possibilités d'insertion et d'intercalation. On a des solutions solides, que ce soit, comme je viens de vous le dire, sur le site du métal de transition ou des solutions solides, soufre sélénium, sélénium tellure. Alors soufre tellure, c'est un peu plus compliqué forcément. Ils sont très très différents en termes de taille en tout cas. Et puis, quelque part, dans ces solutions solides, vous avez des transitions métal-isolant. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'à un moment, dans la solution solide, on va tomber sur des concentrations porteurs de charge qui sont intéressantes pour nous. Ils tombent pile poil où il faut pour faire de la thermoélectricité. Donc, premier exemple, cette pseudo-hollandite, qui n'est pas non plus un composé inconnu, hein, les structures étaient connues, deux formules génériques AXB10, XSS. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez un squelette qui est très rigide, donc qui va conduire les électrons, les porteurs de charge relativement facilement. Et puis, à l'intérieur de cette structure, vous avez ces canaux infinis dans lesquels viennent se placer ces cations A, qui peuvent être stoichiométriques, donc la stoichiométrie, ça serait 1 si c'est un cation monovalent, et qui peuvent aussi être complètement sous-stoichiométriques. Là, encore une fois, une possibilité d'ajuster le nombre d'électrons que vous injectez dans votre structure. Donc le premier exemple, ça c'est tout neuf, hein, ça vient d'être publié, c'est sur ce composé, donc thallium X, chrome 5, sélénium 8. Alors le thallium, vous allez me dire, c'est pas forcément judicieux, c'est un petit peu toxique, un tout petit peu. On a arrêté le thallium depuis, on commence à faire autre chose, mais en tout cas pour l'exemple, et puis il fallait se prouver aussi que effectivement l'idée de départ elle n'est pas peut-être pas trop mauvaise, on va voir si ce composé, avec une structure qui me paraît pour moi relativement complexe, est suffisamment intéressant pour aller poursuivre la recherche. Bon. Donc là, ici, juste pour fixer les idées, hein, on est de 0 à 800 Kelvin, donc on a couplé les mesures basse température aux mesures haute température, ce qui est aussi intéressant pour faire la part des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les hautes températures. Ça tombe bien, je ne suis pas un physicien, j'ai beaucoup de mal à interpréter tout ce qui se passe à très très basse température. Mais en tout cas, vous voyez que ça valide aussi nos mesures de pouvoir coupler les basses températures aux hautes températures. Il n'y a pas d'écart, c'est-à-dire que la métrologie n'est pas trop trop mauvaise derrière. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la conductivité thermique. Hein, quand je choisis une structure, c'est surtout pour me dire « Ah, la thermique va être bonne, parce que la structure est complexe, parce que j'ai des possibilités de désordre. » Et effectivement, la thermique ici est très très faible. Si vous vous rappelez, le composé de Zintl que je vous ai fait voir juste avant était à 0,8, donc 8 milliwatts centimètres Kelvin, là on est en watts mètres Kelvin.
C'est les milliwatts par Kelvin, c'est pas les watts par millikelvin.
Ouais, pardon, enfin, c'est mètres Kelvin.
Ah, mètres Kelvin.
Ouais. D'ailleurs, on voit.
C'est les milliwatts, oui, d'accord.
Il faudrait mettre une parenthèse avec le MLK. Donc watts mètres Kelvin, par rapport à tout à l'heure qui était milliwatts centimètres Kelvin. On utilise les deux, ça c'est plus l'école, hein, j'ai envie de dire, américaine. Et dans les deux cas, de toute façon, on s'y retrouve. Mais en tout cas, ici, on est à donc 7 milliwatts centimètres Kelvin, ou 0,7 watts Kelvin, peu importe. Très très faible. À partir du moment où vous êtes sous le watt, vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'on arrive à une ZT qui est quasiment à 0,5, alors que j'ai une résistivité ici qui est autour de 15 milliohms centimètres. Alors historiquement, et c'est ce qui se passait quand j'étais en postdoc au JPL, quand on voyait des structures qui étaient à plus de 10 milliohms centimètres, j'ai envie de dire, on les mettait de côté et puis on les oubliait un petit peu, parce qu'on était déjà trop loin de ce qu'il fallait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut viser le milliohm centimètre. Donc là, 15, ça commence à faire beaucoup. J'ai envie de dire, ça fait 15 fois trop, donc c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce CBEC est énorme. Il est à 300 microvolts Kelvin, à quasiment 800K. Donc, quand vous combinez un très très fort CBEC avec une thermique très faible, j'ai envie de dire, vous rattrapez ce que vous perdez avec la résistivité. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, en fait, et c'est quelque chose que je développe beaucoup, c'est d'utiliser des composés, enfin d'étudier des composés qui ont, à la limite, une résistivité relativement élevée pour avoir un terme de conductivité thermique électronique quasi négligeable. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver des conductivités de réseau faibles. Parce que déjà, je n'ai plus du tout à me soucier de la conductivité électronique de réseau, conductivité thermique électronique. À partir du moment où j'arrive à trouver des CBEC qui sont élevés. Et donc, alors on parlait de ZT de 10 ou 100, peu importe, on est à 0,5. Mais pour l'exemple, c'est relativement intéressant, surtout en termes de thermique. On sait que cette structure est intéressante parce que la thermique va être faible. On peut faire des substitutions, j'ai 4 transparents en plus là-dessus. Alors, dès que vous travaillez du sélénium, vous avez la possibilité de faire des solutions solides avec le soufre, sous sélénium, ou sélénium tellure. Si vous allez dans ce sens-là vers le soufre, vous allez faire des composés qui sont plus isolants, moins métalliques. Donc, ils vont avoir des résistivités plus élevées. Là, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des résistivités plus faibles. Et donc, naturellement, vous faites une substitution sélénium tellure. En général, ça se passe bien. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici. On a réussi à faire toute une gamme de solutions solides. Alors, vous pourriez, enfin, les gens qui ont l'habitude de regarder des graphes comme ça, vous allez me poser une question, forcément, puisque je tombe ici avec le composé que je viens de présenter, en plein milieu de la solution solide. C'est juste parce que j'ai beaucoup de mal à calculer cette valeur de x dans le composé que je vous ai fait voir juste avant. En tout cas, x n'est pas égal à 0, c'est sûr. Et par contre, dès qu'on commence à mettre du tellure, on est en train de stabiliser le site du thallium, et donc c'est très facile de mettre un thallium complètement. Et donc, vous voyez qu'on ici, c'est le CBEC, un CBEC qui va augmenter parce qu'on ici, on est beaucoup plus stoichiométrique que là. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, le CBEC varie bien dans la solution solide. Hein, plus vous mettez de tellure, plus vous êtes métallique, plus vous avez un CBEC qui va diminuer. J'aurais pu faire voir la résistivité. La résistivité augmente forcément avec le CBEC qui augmente. Donc, plus vous allez mettre de tellure, plus la résistivité va diminuer. Malheureusement, on est dans un cas très simple. Le facteur de puissance, donc le CBEC au carré fois la conductivité, est quasiment constant. Donc on ne gagne rien en termes de facteur de puissance sur une solution solide comme ça. On a toujours un ZT qui est plus ou moins équivalent à 0,5. On n'a pas non plus, et c'est un peu le problème de ce système, on n'a pas amélioré la thermite parce qu'on est déjà très faible de toute façon.
Pourtant on est passé à un élément plus lourd.
Ouais, par contre on est déjà tellement faible que la limite en thermique de réseau, elle se situe à, j'ai envie de dire, 0,3 sur des composés lourds, peut-être un peu plus ici, parce qu'on n'est quand même pas super lourd avec le chrome, peut-être 0,4, donc on a du mal à améliorer cette thermique. Et en tout cas, l'amélioration, je ne peux pas la différencier de la barre d'erreur que j'ai sur la mesure. Donc on est toujours sur des thermiques équivalentes, le facteur de puissance est équivalent, donc les ZT vont être équivalentes, on n'a pas amélioré le système. Par contre, ça ouvre d'autres perspectives dans les systèmes avec cette structure, sans le thallium. Ce qu'on a fait, c'est aussi s'amuser avec le chrome. On a enlevé du chrome, on a mis du vanadium. Ça intéresse aussi beaucoup les gens qui font du magnétisme, parce que chrome-vanadium, ça commence à être compliqué. Donc ça, c'est la suite. Et donc, on verra dans quelques années ce qui s'est passé. Deuxième exemple, alors peut-être plus simple en termes de structure, une structure de type CDI2, TIS2, dans laquelle vous pouvez fourrer, j'ai envie de dire, n'importe quoi entre les couches. Relativement facile à faire, relativement, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir du soufre, vous avez des pressions de vapeur qui ne sont pas négligeables, et donc vous avez un écart à la stoichiométrie, si vous ne faites pas attention, vous avez beaucoup de mal à faire, par exemple, un TIS2 stoichiométrique. C'est très très compliqué. Et c'est la clé de tout ça, parce qu'à chaque fois que vous êtes sous stoichiométrique en soufre, bah, vous décalez complètement vos propriétés de transport, électronique notamment. Donc une solution solide qui est, j'ai envie de dire, sur le papier relativement facile à faire, même si, encore une fois, je souligne cette stoichiométrie, il faut la prendre avec des pincettes. On n'est peut-être pas à TIS2 stoichiométrique. On n'est sûrement pas d'ailleurs à TIS2 stoichiométrique. Par contre, ce qui est plus intéressant, et là, il y a un débat dans la communauté, c'est de savoir si TIS2 est un semi-métal ou un semi-conducteur. TIS2, est-ce que c'est un semi-métal, un métal, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas, je ne participe pas au débat. Par contre, ce que je sais, c'est que je peux faire TIS2 et je le mesure, et ça ressemble franchement à un mauvais métal, à un semi-métal qui est de type P. Et puis je mesure un TIS2, j'ai envie de dire TIS2 moins X, on va l'appeler TIS2 quand même, qui est franchement de type N, et qui est franchement beaucoup moins semi-métallique, qui ressemble beaucoup plus à un semi-conducteur. Et donc quand vous faites une solution solide qui va de TIS2 à TIS2, alors ça devient très compliqué pour, j'ai envie de dire pour moi, à expliquer ce qui se passe, parce que vous passez d'un semi-métal à un semi-conducteur, et en plus le semi-métal est type P et le semi-conducteur est type N. Et donc forcément, entre les deux, vous avez des comportements assez curieux dans la solution solide. Vous voyez cette courbe verte là, il y a une variation qui est assez curieuse du CBEC. Alors, on est sur des CBEC relativement élevés, hein, sur TIS2, c'est intéressant. Les résistivités, alors c'est pareil, pardon.
Une question sur le slide.
Ouais.
Ce qui te fait dire que TIS2 est plutôt semi-conducteur et TIS2 plutôt semi-métal.
C'est la valeur du CBEC. Ouais, c'est tout.
Parce qu'on a des grands CBEC de 150
microelectrons TIS2. Ouais, complètement.
Complètement.
Si on prend des métaux, je crois que le meilleur des métals a à peu près un CBEC qui va plafonner à 40 microvolts, 40-50, pas plus. J'ai envie de dire, c'est une façon de reconnaître les choses rapidement avec le CBEC. Parce que si je regarde la résistivité, je peux pas dire quoi que ce soit. Pas franchement. Bon. Par contre, ce que je vois, c'est que clairement, il y a un régime qui est différent. Donc si j'avais pas le CBEC en plus, là, je ne pourrais pas franchement dire ce que je viens de dire. C'est peut-être un abus de langage qu'ont les chimistes, mais en tout cas, c'est un métal, enfin quelque chose de très métallique, ne va pas avoir un CBEC très élevé. En tout cas, pas au-delà de 100 microvolts, c'est impossible. Enfin, ça serait du jamais vu. Après, il faudrait aller voir les structures de bande et je ne sais trop quoi, ça a l'air assez compliqué puisque dans la communauté, personne n'a l'air a priori d'accord. Donc, des résistivités qui nous intéressent, on est dans le milliohm centimètre, encore une fois, hein. C'est intéressant. Des étés qui ne sont pas super, par contre, qui commencent à être intéressantes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'ébauche du travail, d'un travail qu'on a commencé. Forcément, vous imaginez bien qu'on a commencé à intercaler beaucoup de choses entre ces couches, avec des comportements que je ne vais pas développer aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais on est en train d'apprendre pas mal de choses. On a notamment un composé dans lequel le CBEC augmente alors que la résistivité diminue, ce qui est assez troublant. Encore une fois, ça, on l'a vérifié, effectivement, le CBEC augmente, la résistivité diminue. Quand on voit ça, on fait « Ok, c'est intéressant ». C'est très intéressant, par contre, pour l'expliquer, il va nous falloir effectivement des calculs, des théoriciens, des gens qui s'accrochent aux structures de bande, voir un peu ce qui se passe. Dernier exemple, et j'en aurai terminé, un exemple qui est aussi basé sur des couches CDI2, donc exactement comme TIS2, AGCR et C2, donc des couches de type CDI2, et entre ces couches, des atomes d'argent. C'est pareil, vous pouvez mettre un X ici, on peut en enlever, on peut faire le composé stoichiométrique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce composé est connu, ce qui est très intéressant, entre guillemets, hein, vous allez voir pourquoi, est connu pour être ici, au niveau de la couche d'argent, donc de l'espace intercouche du composé, l'argent est complètement désordonné. Ici, vous avez quasiment une partie vitreuse. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous vous dites, bah, pour la thermique, c'est super, on a une partie vitreuse, une partie très cristallisée ici, hop, Glenn Slack, le concept PGEC, Phone and Glass Electron Crystal, donc on va conduire les électrons, enfin les porteurs de charge en tout cas, dans la partie cristallisée, et puis on va tuer les phonons parce qu'on a une partie vitreuse. Sur le papier, c'est joli. Alors effectivement, c'est intéressant. Par contre, donc quand on mesure ce CBEC et cette résistivité, on est un peu dans le même schéma que tout à l'heure. Une résistivité qui est trop élevée, une résistivité qui est trop élevée, ici on est à 35 milliohms centimètres, un CBEC par contre qui est très élevé, exactement comme dans les Hollandais de tout à l'heure. Et puis une thermique, alors là il faut que je fasse attention à ce que je vous dis, regardez surtout les points noirs. Donc là vous avez une transition de phase, c'est pour ça qu'il y a un accident dans la courbe, peu importe, mais en tout cas, regardez, donc là c'est une autre unité, alors on a des problèmes dans la communauté thermoélectrique, il n'y en a pas deux qui utilisent les mêmes unités, voilà, je suis désolé. Par contre, ici, on est donc à 0,6 watts mètre Kelvin, encore plus faible que tout ce que vous avez vu précédemment. Et effectivement, c'est encore cette image de composé fait d'une partie cristallisée et puis cette partie complètement amorphe apportée par ce désordre des atomes d'argent entre les couches qui nous permet d'obtenir des thermiques très très faibles. Avec en plus une résistivité qui est très élevée, donc une partie électronique, une contribution électronique qui est quasiment négligeable. Donc ça, encore une fois, ça donne des ZT qui sont... alors c'est là, c'est celle-ci qu'il faut regarder, hein, attention, 0,4, 0,5. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vous ai fait voir quelque chose, le schéma fonctionne, mais les ZT, c'est pas non plus, on n'est pas à 3. Hein, parce que, j'ai envie de dire que la nature, pour l'instant, ne nous le permet pas. Et on n'a pas eu, j'ai envie de dire, de révélation. Mais en tout cas, les schémas qu'on utilise... À chaque fois, en termes de relations structure-propriété, ça a du sens. On ne choisit pas des structures au hasard et on va voir ce qui se passe. Donc ça, c'est pour résumer sur ce composé. Donc a priori, c'est un très bon thermoélectrique. A priori, enfin, ça pourrait être un très bon thermoélectrique comme système. Par contre, ce composé, à cause de cette mobilité d'argent qui est assez énorme, c'est un très bon conducteur ionique. Donc forcément, pour utiliser ça dans un système thermoélectrique qui travaille sous fort courant et faible voltage, c'est même pas la peine. On a fait des tests, en moins d'une minute, vous mettez un petit courant de 100 mA, l'argent vous le retrouvez à la surface de votre échantillon. C'est un test qu'on fait à chaque fois qu'on a des échantillons qui contiennent de l'argent, du cuivre, parce qu'on sait que ce sont des espèces très mobiles. Et ça, c'est par expérience. Hein, au JPL, on avait un système où on mettait 40 ampères dans l'échantillon pour voir s'il y avait de la mobilité. Parce qu'effectivement, bah, ça ne sert à rien d'aller travailler avec des choses qui sont des conducteurs ioniques. Alors, j'ai une collègue américaine qui me dit, bah oui, mais il suffit de procurer un réservoir d'argent d'un côté, un réservoir d'argent de l'autre, et puis on fait circuler. Bah, moi, j'attends des ingénieurs, mais ça risque d'être compliqué quand même. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le concept d'avoir des parties vitreuses à l'intérieur d'un matériau cristallisé, c'est super intéressant. Forcément, éviter des conductions ioniques. Donc là, j'ai un thésard qui est en train d'essayer de... Alors, c'est un peu aberrant, d'essayer de tuer la conductivité thermique dans des composés comme ça. Alors que j'ai des collègues qui cherchent des conducteurs ioniques à côté de moi. Donc je vais aller voir comment on tue la conductivité ionique, parce qu'à la limite, ça serait peut-être une piste aussi. Pourquoi pas? Donc vous voyez, ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Forcément, ça continue. Je ne vous ai pas fait voir tout ce qui se passait, mais en tout cas, c'est plus l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre devant la paillasse pour essayer de trouver des composés qui sont intéressants, en tout cas sur le papier, et puis aller voir si on peut les faire, les mesurer, et voir un peu si on n'est pas complètement à côté de la plaque, ou si, comme je vous l'ai fait voir, on n'est pas loin d'être dans des systèmes intéressants. Donc, en résumé, et ça c'est plus le côté optimiste, hein, il faut être optimiste, parce qu'effectivement, des ZT de 0,5, on en trouve, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose, mais on en trouve. Alors, moi c'est ce que je dis toujours, hein, il y a des composés quelque part qui existent, avec des très bons ZT. Ce composé, il est sorti de nulle part. C'est un composé qui a été découvert en Allemagne en 1984 par le groupe d'Eisenmann. 84, ça a été mesuré en 2006. Il y a des tonnes de composés comme ça qui existent dans les bouquins. Et dans le lot, il y en a certainement qui ont des ZT plus que raisonnables, et plus qu'intéressantes. Et ça, à nous d'aller identifier un peu déjà, c'est pour ça qu'il y a ce travail en amont, pas aller prendre tout ce qui existe et mesurer tout, c'est impossible. Des structures connues, que ce soit l'andite, CDI2, de type CDI2, des oxycalcogénures. Alors là, après, on rentre dans des composés à structure misfit. Hein. Il y a des misfit AIS2 avec, entre les couches, d'autres fragments de structures différentes. Des nouveaux matériaux et des nouvelles structures. Parce que là, j'ai pas parlé, vous avez vu, j'ai pas parlé de nouvelles structures. Les hollandites, enfin les pseudo-hollandites, donc les hollandites intermétalliques sont connus, les CDI2 étaient connus. Par contre, il y a aussi des nouvelles structures. On fait des nouveaux matériaux. Pourquoi pas? Donc ça vous procure en fait une richesse énorme en termes de chimie pour trouver des systèmes qui sont potentiellement intéressants. Et je pense que si on veut des ZT3, parce que c'est ce qu'on veut tous, il va falloir arrêter de travailler sur des composés qui sont connus, parce qu'on va améliorer les propriétés, oui, mais pas d'un facteur 3, ça serait surprenant. Si déjà on gagne 25%, on est content, on est même très très content, mais pour passer de 1 à 3, il faut faire autre chose. Et puis, clairement, hein, alors j'ai beaucoup de contacts avec les industriels, ils nous attendent. Là, j'ai une liste comme ça, Franck, dès que tu as un matériau avec une ZT3, tu nous appelles. Ouais, ça sera au plus offrant, mais... je les appellerai. Par contre, alors j'aime pas finir sur le côté un peu compliqué de la chose, c'est forcément on parle de matériaux. Moi je vous parle de matériaux, je mesure un matériau. Par contre, entre le matériau et le module, le device qu'on va pouvoir mettre dans je sais pas quel système, il y a un monde. Hein, attention, c'est pas quelque chose qui va se translater directement du matériau au module. J'ai un matériau avec une ZT de 3, la ZT moyenne du module ne sera pas de 3, ça on en est sûr. Parce qu'il y a tout un problème de conception et de fabrication de ce circuit qui n'est autre qu'un circuit électrique, hein, avec tout ce qui est résistance de contact, brasure, vieillissement, diffusion, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme complication. Bon, ça je viens de le dire, il y a des gens qui travaillent et qui essayent de trouver une solution de remplacement au BI2TO3. Et on cherche tous. Le gros problème, c'est que BI2TO3, j'ai envie de dire, il est parfait, il est fabriqué avec des éléments qui sont très lourds. Et ce qui pêche aujourd'hui pour les matériaux qui sont beaucoup plus légers, c'est la thermique à l'ambiante. Hein, parce que pour de la réfrigération, il faut un matériau qui fonctionne et qui soit optimisé à la température ambiante. Or, les conductivités thermiques à l'ambiante sont relativement élevées en général parce que vous devez avoir des éléments qui sont très lourds pour avoir des conductivités thermiques faibles. Des ZT de 0,5 à 0,8, c'est facile à trouver. J'ai plusieurs exemples, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, sauf si votre ZT, j'ai envie de dire, elle est constante. Si le ZT, si le Z bar qu'on utilisait tout à l'heure dans les équations était quelque chose de constant sur toute la gamme de température. Si demain j'arrive avec un ZT, même de 0,8, mais qui est constant sur toute la gamme de température, ou moyenné en tout cas, sur toute la gamme de température, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Puis ça, c'est le rêve. Hein, pas cher, pas toxique, léger, robuste, qui vieillit très très bien, très efficace. On travaille aussi là-dessus. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'on fait sur les silicures. Hein, Mg2SI, manganèse, silicium, ça, ce sont des composés qui rentrent là-dedans. Malheureusement, il y a un problème de robustesse, il y a un problème peut-être de vieillissement, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Donc avec ça, je vais vous remercier de m'avoir écouté. Je vais remercier encore une fois Antoine pour l'occasion. Et puis je remercie mes collègues aussi avec lesquels on interagit énormément. Et puis forcément les gens qui nous aident ici à faire tout ça. Parce que, comme je vous l'ai fait voir, il faut fabriquer énormément de matériaux, des quantités quand même non négligeables, des temps de manip qui sont quand même relativement élevés et des manips qui coûtent cher aussi. Donc c'est aussi le problème qui peut se poser si on n'a pas suffisamment de sources de financement. Voilà, merci.